Leur CV.
Quand je réfléchis, j'ai six cerveaux, en fait.
Leur CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
OK, on est de retour à l'émission. C'est drôle, c'est drôle. Des fois, à la vie, Internet des trois accords vient de jouer et il y a une panne majeure, mesdames et messieurs, à souligner. Une panne absolument majeure. C'est pas une farce, là. Mais tout le monde la vit en ce moment. Puis il y avait une panne électrique dans plusieurs secteurs, en fait, de la ville. C'est une panne qui était programmée sûrement pour faire en sorte là, qu'on soit capable de gérer le réseau d'Hydro-Québec, de faire des améliorations. C'est encore le cas. Beaucoup de clients qui manquent d'électricité sur le territoire de la capitale nationale. On est à 1200, là, puis c'est pas pour être réglé dans l'heure. Mais ce qui vient de s'ajouter en termes de panne, c'en est une majeure pour Facebook, pour Messenger. En fait, Meta, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là. Si vous étiez connecté, ça s'est complètement déconnecté. Vous n'avez plus de compte, en fait, lié dans vos appareils. On s'est dit à tout le monde, session expirée. Grosse, grosse panne, là. Partout, même si vous n'étiez pas déconnecté. Voyez-vous, sur Facebook, sur Messenger, là, j'essaie de voir à Instagram comment ça se passe. Pour le moment, là, ça me dit que c'est impossible de charger mes publications ou encore de faire un refresh, mais ça semble pas être aussi problématique que Facebook. Un gros, gros crash sur Facebook et sur Messenger en ce moment. Ça veut dire quoi? J'en ai aucune espèce d'idée, mais sachez-le maintenant, vous êtes au courant de cette panne-là. Et puis, vous pouvez venir nous écouter sur Twitch, twitch.tv, si vous avez besoin de vous divertir. twitch.tv/BLVD/FM. On va changer de sujet, mais je reste à l'affût quand même de ce crash majeur-là de vos applications favorites. Là. C'est tout le monde en fait qui est concerné. J'ai même demandé aux auditeurs dans les dernières minutes, puis tout le monde est en train de gérer la dite situation, soit en n'ayant aucune idée de quoi faire. Pour aller lancer du prochain sujet, vraiment contente d'avoir à l'émission, mon ami, mais aussi commentateur et chroniqueur régulier ici à l'émission, il s'appelle Philippe Dubois, il est professeur à l'ENAP en communication publique et politique. Salut Philippe!
Salut Pascal!
Va falloir qu'on gère nos communications autrement, hein, parce que toi et moi, on parle majoritairement par Messenger quand on a des chroniques ensemble. Puis là, ce qui est comique, en fait, c'est qu'on n'a plus notre fil de conversation pour en jaser puis tenir le fil de cette chronique-là. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter parce que c'est un sujet qu'on maîtrise quand même sur le bout des doigts. Mais Philippe, dans les dernières heures, il y a eu un point de presse important de la santé publique, celui sur la rougeole. Il y a une recrudescence des cas. Puis on va pas parler de rougeole, mais suivez-nous, on vous amène à quelque part. On va pas parler de rougeole parce que, même si c'est important, c'est pas le sujet de tout ça. C'est plutôt le fait que personne n'était au courant qu'il y a eu un point de presse. On l'a dit en onde, on l'a dit dans les médias, on a fait ce point de presse-là qui est très important, en fait, parce que recrudescence de rougeole, ça veut dire quoi? Contamination importante, c'est très contagieux, c'est aussi, voire mortel pour les enfants, entre autres. Ça amène des troubles respiratoires. Puis on lit ça aussi à... disons l'achalandage vaccinatoire des dernières années, les gens qui en ont eu par-dessus les épaules, par-dessus la tête, d'entendre parler de vaccination, ont peut-être pas été avec leurs enfants, donner les fameux vaccins qui étaient, comme un peu dans la feuille de route lors d'une naissance dans les dernières années, ce qui a fait en sorte que la rougeole, on n'en parlait presque plus. Hier, point de presse à la santé publique, personne n'a écouté. Philippe, t'explique ça comment?
Ben, parce que, par beaucoup de facteurs, mais notamment le fait qu'on a encore le réflexe des institutions publiques, c'est d'utiliser les médias d'information comme relais d'information. C'est la façon traditionnelle qu'on a de communiquer avec les gens. Par contre, il faut se poser une question, est-ce que c'est encore aussi efficace qu'avant, voire est-ce que c'est encore la bonne façon de rejoindre les gens? Je pense que oui, là. Je pense qu'une conférence de presse, ça reste toujours utile. Mais on peut plus simplement miser sur les bonnes vieilles relations de presse et penser qu'on rejoint tout le monde parce que les gens n'écoutent plus ou lisent plus ou s'abreuvent plus, ou du moins de moins en moins. Les gens consomment encore les médias, mais de moins en moins consomment les médias à la source.
De façon assidue comme auparavant aussi, là, ouais.
Exactement. Puis on utilise davantage les médias sociaux pour s'informer maintenant. Puis là, comme aujourd'hui, puis l'actualité fait bien les choses.
Oui.
Aujourd'hui, si on ne s'abreuve pas dans les médias traditionnels, si on ne lit pas le journal ou qu'on ne consulte pas des sites web, Radio-Canada, TVA Nouvelles, Boulevard, FM, peu importe, et qu'on s'abreuve uniquement sur Facebook, ce matin, c'est difficile, à part si on t'écoute pas,
ouais, c'est planté.
De savoir qu'est-ce qui se passe.
Oui, c'est planté. Je viens de passer la chanson Internet des trois accords. Internet, Messenger, Instagram est planté. J'ai dit, venez nous rejoindre sur Twitch et tout le monde a migré vers Twitch. Normalement, les gens, je pense, écoutent majoritairement sur l'application de Boulevard ou encore directement à la radio. Puis j'ai vu le nombre de personnes qui écoutent exploser sur Twitch suite à cette panne-là. Mais ça en dit beaucoup sur on a besoin de se connecter à quelque chose. Puis en passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Twitch, c'est des caméras en studio. Mais on a besoin de se connecter à quelque chose, puis on a besoin d'aller chercher de l'information d'une manière ou d'une autre. Puis juste avec ce petit bug-là, on voit ce que ça donne. Le hic étant, oui, parfait, le gouvernement, moi, j'y voyais deux branches, a peut-être le manque de pertinence de travailler sur leurs canaux de communication d'information, soit rester à ce qu'ils connaissent par le média traditionnel, par le point de presse, comme avec des journalistes devant. Mais aussi, je pense que, en tout cas, dans l'analyse, il y a un certain épuisement quant à cette surdose d'informations, surtout en santé en ce moment. Et je posais la question au début d'émission, sachant qu'on allait te recevoir. Il y a beaucoup de points de presse, et ça, c'est énormément écrit par texto par les auditeurs. On dit depuis la COVID, on a un peu peur d'avoir peur, on a peur d'être malade, donc on écoute moins peut-être ces nouvelles de santé-là. Certaines personnes ont eu de l'anxiété là, démesurée face à cette peur d'être malade, n'ont pas été malades, n'ont plus envie d'en entendre parler de ces virus-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cet enjeu de communication puis même de santé publique là, qui se côtoie?
Ben oui, puis tu viens de le dire, en fait, c'est stratégique parce que c'est de la santé publique. En fait, c'est des informations qu'on a besoin. On n'est pas des spécialistes. On a besoin, puis la santé publique, c'est l'institution qu'on s'est donnée pour dire, ben, il y a des gens qui vont nous donner de l'information pertinente lorsqu'il faut agir ou réagir en fonction de certaines choses. Fait que comme citoyen, on en a besoin. Le grand défi, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus vrai que tout le monde écoute le même bulletin de nouvelles à 18h ou à 22h avant d'aller se coucher. C'est plus vrai que tout le monde va lire le même journal. Donc, il y a une fragmentation, c'est-à-dire qu'on est tous des individus uniques en notre genre, qui avons tous et toutes nos propres habitudes, nos propres intérêts aussi. T'sais, c'est pas tout le monde qui veut savoir ce qui se passe dans les médias, puis c'est bien correct. Mais le défi, lorsqu'on doit transmettre de l'information qui est parfois urgente, du moins toujours pertinente, c'est de savoir quel chemin on prend pour rejoindre ces gens-là. Puis ça, c'est de plus en plus compliqué. On a de plus en plus de difficultés à rejoindre les gens pour leur donner de l'information de type affaires publiques, de l'information qu'on a besoin comme citoyen.
C'est ça, de l'information citoyenne, oui.
Exactement. C'est quelque chose qui va nous donner de l'information utile pour apporter un jugement sur ce qui se passe, que ce soit en politique, que ce soit en santé, peu importe. Mais ça, c'est de plus en plus difficile de la transmettre.
On ferait
c'est
quoi, Phil? Aussi... Vas-y, je m'excuse.
Non, mais ta question est bonne. On fait quoi? Moi, je pense qu'on on doit se poser la question. Puis c'est la première des choses. T'sais, les médias d'information, les journalistes vont toujours vouloir être fidés. T'sais, ils vont toujours vouloir avoir l'information parce que c'est leur rôle.
Oui.
Mais on peut pas prendre pour acquis qu'ils rejoignent tout le monde. Ça, c'est dur à dire. Puis moi, ça me crève le cœur parce que ces gens-là sont une courroie de transmission essentielle. Si on n'avait pas de journalistes, on serait en très mauvaise posture comme citoyen. Mais comme il y a des gens qui se sont détournés des journalistes, puis qu'on peut pas reconvaincre tout le monde parce que il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte qu'il y a des gens qui ont décroché, ben là, on est un peu pris à utiliser des médias sociaux qui sont relativement peu fiables, qui sont coûteux, puis qui ne sont pas une plateforme de diffusion d'informations publiques. Quand les médias sociaux nous donnent ce qu'on veut voir, nous donnent pas ce qu'on devrait voir.
Non, c'est ça. C'est pas rigoureux non plus. Là. Au-delà des pannes comme on vit en ce moment avec Instagram en passant, Facebook et Messenger, au-delà de cette panne-là, c'est pas nécessairement des médias rigoureux. Comme tu as dit, il y a l'algorithme en arrière de tout ça qui va t'abreuver de ce que normalement tu regardes. Tu vas peut-être être à risque d'être dans une chambre d'écho. Si jamais, toi, c'est les vidéos de chats qui constamment te divertissent, si ça t'intéresse, tu vas passer à côté de la nouvelle. Ils ne vont pas t'en offrir aussi. Donc, cette exposition-là, puis ça me rappelle une chronique qu'on avait fait ensemble, Phil, au début de l'automne, où on parlait justement de, normalement, dans ta vie, sur le côté informatif, sur l'intérêt de ce que la nouvelle peut t'amener dans ta vie. Mais il y avait le fait qu'il y avait des TV partout. Ta mère, ton père, en préparant un souper, avait la télé ouverte. Donc, tu apprenais en étant jeune, même si tu jouais avec tes blocs Lego à côté, à comprendre ce qui se passait dans ton monde. Au souper, tout le monde en parlait de ces sujets-là parce que c'était un peu comme la température. Tout le monde était conscient de la nouvelle. Tout le monde avait écouté le bulletin de nouvelles. C'était quelque chose de social, de culturel. Et ça s'est amenuisé. Puis ça m'amène à me poser une question qui est fataliste, défaitiste et non optimiste assurément. Mais s'il y avait une guerre, Philippe, qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre tout le monde? Admettons, la télé brise, les réseaux sociaux sont pris d'assaut par, je sais pas moi, un pays comme la Chine, mais c'est pas le cas, là. Ben, peut-être en ce moment, je sais pas, on verra c'est quoi qui se passe avec la panne de Meta, mais on fait quoi? On retourne sur la radio AM?
Ben, je pense que, tu sais, la radio, là, si la radio recevait un dollar à chaque fois que les gens avaient prédit la fin de la radio, je pense que vous seriez tous et toutes riches.
Oui.
Puis vous êtes encore là. Parce que clairement, ça répond à un besoin. Les gens qui nous écoutent en ce moment ont choisi d'écouter la radio, probablement parce que c'est un média qui est plus intime. Hein, on a l'impression d'être en conversation avec toi.
On l'est, oui.
Parce que on peut le faire aussi en faisant autre chose. Tu sais, c'est moins engageant qu'écouter la télé où là, il faut regarder et écouter. Moi, je pense que les médias traditionnels, tu sais, les bons vieux médias électroniques, là, comme diraient mes parents, ben, je pense qu'ils ont encore leur pertinence. Il ne faut pas penser que parce qu'aujourd'hui, on a accès à Internet, qu'on a accès aux médias sociaux, qu'on a accès à plein de choses, que ça, c'est désuet. Puis on revient à la boucle qu'on a commencé à tisser tout à l'heure en disant pourquoi on fait encore des conférences de presse. C'est qu'il faut quand même apporter de l'eau au moulin à ces médias traditionnels-là. Parce que lorsqu'on vit des situations d'exception, le réflexe, ça va être de se tourner vers ces sources-là considérées comme fiables, considérées comme traditionnelles, qu'on délaisse quand ça va bien, qu'on délaisse quand on a envie de se divertir. Mais quand il y a une catastrophe, là, on a besoin de savoir. Puis pour savoir, bien, je pense qu'on a besoin de gens comme toi, comme les journalistes dans les médias traditionnels, dont c'est le travail d'aller chercher l'information puis de nous la vulgariser via des médias qu'on peut juger comme étant sérieux, crédibles ou du moins plus solides que les vidéos de choc Facebook nous envoie parce que Facebook veut nous garder juste plus longtemps pour qu'on voit plus de pubs, pour qu'ils fassent plus d'argent, puis qu'ils s'en foutent un peu de savoir si on a l'information nécessaire pour être des citoyens ou pour avoir une opinion éclairée sur ce qui se passe autour d'eux.
Ouais, pour eux, c'est l'argent, en fait, la rentabilité. Le hic étant, Philippe, bon, on décide encore de faire des points de presse du côté du gouvernement. Je pense qu'il y a ce canal de communication-là qui est à questionner, mais il y a aussi peut-être l'embourbement de la nouvelle. Les gens semblent un peu fatigués d'avoir des nouvelles sur la santé. Ça nous inquiète, c'est anxiogène. Tu le vois, est-ce que tu le vois comme moi, comme étant peut-être un pan de nouvelles qui s'est effrité avec la pandémie? On a tellement parlé de santé qu'on ne veut plus rien savoir, ou du moins on veut vivre notre petite vie au quotidien, puis nous faire dire qu'il y a encore une infection qui est en recrudescence, puis que c'est mortel, puis que ça atteint les voies respiratoires. Ça ne nous tente pas, même si c'est important.
Ah, c'est clair qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue informationnelle par rapport à toutes les questions de santé, parce qu'on a été saturés. Puis tu sais, ce qu'on a vécu en pandémie, c'est exceptionnel sur tous les plans, notamment sur le fait qu'à tous les jours, puis tu sais, c'était des millions de personnes qui écoutaient la même conférence de presse. Tu sais, c'est des scores télévisuels aujourd'hui qui se peuvent presque plus au Québec, là, tu sais, à part les grandes séries, là. Mais tu sais, on s'est abreuvé à tous les jours, on a été bombardé d'informations sur un même sujet. Puis c'est un peu comme le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, c'est bon, là, mais si t'en manges trois fois par jour pendant deux ans, ça se peut que tu t'écœures. Ça se peut que t'aies le goût de manger autre chose que du gâteau au chocolat. Puis tu sais, je fais la comparaison parce qu'elle nous permet de comprendre. Là, évidemment, c'est plus complexe.
Ouais.
Mais tu sais, on est un peu tanné, on est un peu saturé. Puis il y a un piège auquel il faut pas embarquer comme citoyen. Hein? Souvent, lorsqu'on s'écœure d'un sujet, on n'y porte plus attention. Où on associe en disant, ben, comme on l'a vu beaucoup, là, on dit, ah, ben, là, il exagère, ah, ben, non, il parle.
Ben, on le voit, là, en ce moment, là, avec la rougeole.
Mais c'est un piège. Parce que la santé publique, là, puis surtout la santé publique, qui est vraiment une organisation très scientifique, avec des protocoles rigoureux, puis quand ils sont rendus à faire une conférence de presse, parce qu'en fonction de leurs données, ils se disent, bon, on n'a pas le choix de leur dire, c'est utile que les gens le sachent. Après ça, ils se gouverneront en conséquence, mais il faut leur dire. Si nous, par écœurite aiguë, on se met à ne plus écouter la santé publique, on se prive d'informations potentiellement utiles. Puis je dis pas que tout ce qu'ils disent, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, puis il faut suivre ça sans se poser de questions. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut pas tomber dans le piège, parce qu'on a beaucoup parlé d'un sujet associé à la santé publique dans les dernières années, de se couper puis de fermer les oreilles à chaque fois qu'on entend le mot santé publique, parce qu'il y a une raison derrière ça. S'ils nous en parlent, parce que selon leurs données, on devrait être au courant, puis c'est, en fait, c'est de l'information qu'ils nous donnent. T'sais, ils nous donnent des conseils, littéralement. faut pas s'en priver parce qu'on est écœuré, mais en même temps, c'est compréhensible d'être écœuré parce qu'on en a énormément parlé.
Bien, ça, c'est notre devoir de citoyen, mais très rapidement, Philippe, parce qu'il nous reste 30 secondes. Oui. Est-ce qu'il y a un devoir gouvernemental aussi dans la sélection? Là, va-t-il falloir qu'il se pose la question? Là, la rougeole, pour nous, c'était vraiment important, mais prochain sujet, on laisse faire le point de presse. Y a-t-il ça aussi à remanier du côté gouvernemental?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, là, on est tellement bombardé de toutes sortes d'informations, de toutes sortes de sources, qu'on doit s'assurer que lorsqu'on parle, il faut que ça veuille dire quelque chose. Donc, trop parler, parfois, c'est se tirer dans le pied.
Très bien résumé. Donc ça sera le travail gouvernemental, en plus de peut-être revoir leurs canaux de communication, en élargir peut-être aussi de ces canaux-là, chercher ailleurs. Puis notre travail de citoyen, c'est de ne pas tomber dans le piège de ne plus s'informer quand on juge du côté de la santé publique. C'est très important. On ira explorer à un moment donné aussi tout ce qui s'en vient avec le big shot de la santé qu'on devra aller chercher à l'extérieur du ministère de la Santé. Plutôt un gestionnaire. Est-ce que ça va aider justement à la crédibilité de ces points de presse-là, du transfert d'informations à suivre. Merci beaucoup, Philippe Dubois, professeur en communication publique et politique à l'ENAP.
Salut, Pascal.
Salut. L'émission tire à sa fin. Il nous reste quelques secondes pour se dire un beau bye. Mais avant tout, on se retrouve avec Yannick Marceau dans un instant là, pour Marceau le midi. Avant tout, je répète qu'il y a une panne majeure en ce moment. Sur Internet, là, on pensait que ce n'était que Meta. Ça va plus loin que ça. Là. Facebook, Instagram, Messenger, Threads, ça c'est encore tout Meta, là, mais YouTube aussi est en panne, Google Play est en panne. Ce que je vois, c'est que c'est difficile aussi pour X de ce monde, Uber Eats, OpenAI, il y a une couple de d'applications, même les Walmart de ce monde et autres, là, qui sont dans la difficulté de vous servir comme d'habitude. Là. Il y a une grosse panne Internet à considérer en ce moment. Est-ce la fin du monde? On peut se poser la question. Je fais des farces avec ça, mais c'est intriguant. Puis on va aller aux sources le plus qu'on peut. Mais j'ai pas l'impression qu'on va avoir ces sources-là jusqu'à maintenant. Venez vous brancher sur Twitch avec nous. Ça fonctionne encore jusqu'à temps qu'ils nous coupent ça. Twitch.tv/BLVD/FM. Je le ferme quelques instants pour qu'on le rouvre à nouveau pour Marceau le midi. Sachez qu'on va être là pour vous. Merci d'avoir été dans leur CV.